On prie. Notre Dieu, notre Père, on te rend grâce parce que ce temps de communauté ensemble à tes pieds est un temps important qui nous renouvelle, qui nous replace dans ta présence, qui fortifie en nous les grâces que tu nous as accordées. Et je prie, Seigneur, que tu nous rendes attentifs à ta parole de façon toute particulière. Tu vois les préoccupations des uns et des autres avec la semaine qui commence demain. Tu vois les fardeaux, les difficultés, les douleurs, les souffrances. Père, je prie que tu viennes nous rencontrer au milieu de tout ceci, y compris dans ce que nous sommes en tant qu'êtres pécheurs qui avons besoin de grâce, et que ce matin, ce soit encore les yeux levés vers toi qui nous permettent de nous fortifier dans la grâce et de repartir encouragés, plein de joie en toi. Bénis chacun d'entre nous, nous avons profondément besoin de toi. En Christ, amen. Voilà, je ne sais pas si le PowerPoint a pu être lancé de votre côté. Oui, super. En tout cas, ce sera la dernière session pour votre retraite. J'espère que ça a été un encouragement ou en tout cas quelques repères utiles sur la perspective de maintenir une vie d'église qui soit durable, qui tienne la distance. Vous êtes à votre 10e année, c'est une belle étape en fait, et je suis heureux de l'apprendre, de voir comment Dieu vous a conduit. John a été instrumental dans ma vie, j'étais jeune converti, et puis on discutait, il m'a proposé un exercice tout simple, c'est de prendre acte 1-8 et d'écrire 20 observations à partir de acte 1-8. Tu te souviens de ça, John? Et j'ai 20 observations de acte 1-8, ça fait beaucoup, quoi. Et il me dit, tu sais, Florent, le vrai exercice, c'est 50. Donc, j'étais content qu'il adapte à ma situation. Et puis, donc, je fais tout le travail que je suis capable de faire avec ce petit verset. Et voilà qu'à ce moment-là, on était en train de lancer une campagne d'évangélisation en faisant venir James Irwin, qui est un astronaute qui est allé sur la Lune avec Apollo 15, qui était un chrétien très, très engagé. Moi, je suis souvent dans la Lune, mais lui, il l'était dessus. C'était impressionnant quand même. Et comme j'étais le président de cette association naissante pour cette campagne d'évangélisation sur Lyon, on m'a demandé de prêcher. Je n'avais jamais prêché de ma vie, j'étais tout tremblant. Et je me suis dit, le seul texte que je connaisse un peu mieux, c'est acte 1-8. Et ça m'a lancé vraiment dans... Donc j'ai pris ces 20 observations et j'ai fait ce que j'ai pu pour un message. Et donc c'était amusant, quoi, parce que tu as été vraiment au départ un peu de cette perspective sur la prédication. Et voilà que donc on se pose la question de comment maintenir une vie d'église dans le temps. Et c'est compliqué une vie d'église, vous ne trouvez pas? Je veux dire, franchement, est-ce que vous vous seriez choisis les uns les autres pour faire partie du même club? Probablement pas. Personne ne m'a dit ça, je l'imagine seulement. Personne n'est venu se plaindre, je vous préviens juste. Mais vraisemblablement, vous ne vous seriez pas choisis les uns les autres pour dire « Ah, viens dans ma famille ». Et Dieu nous place dans sa famille pour qu'on vive la grâce, le pardon mutuel, on vive la réalisation que le tout est mieux que l'individu laissé à lui-même. Et en même temps, c'est difficile de maintenir avec le temps la passion pour le Seigneur, pour l'Église. En écoutant la manière dont John a vendu les groupes de maison, je me dis, c'est pas toujours évident d'en faire une priorité. Sinon, il en parlerait beaucoup plus rapidement, tout le monde serait d'accord. C'est pas toujours évident de garder cette passion. Et donc, ce que l'on a vu dans le développement de la vie de l'Église d'Éphèse, on a vu les fondements assez puissants que l'apôtre Paul a donnés en acte 19 à cette église, fondements centrés sur Christ, centrés sur l'Évangile, mais faisant écho aux préoccupations de la société et de la culture de l'époque. Il a placé le témoignage du Christ au centre de la préoccupation des Éphésiens et l'impact a été extraordinaire. On pense que beaucoup des églises d'Asie mineure sont nées du travail de discipolat et de formation de leader qu'a fait Paul à Éphèse. Si je mets en « on », ça va beaucoup mieux. Et quelques années plus tard, Paul a laissé Timothée dans cette ville d'Éphèse. Quelques années plus tard, je l'ai mentionné, l'apôtre Jean y a pris sa retraite. Et quelques 40 ans après le début de la vie de l'Église, Jésus envoie en quelque sorte une lettre à l'Église d'Éphèse. Cette lettre fait partie des 7 lettres que nous trouvons en Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et donc, on a vraiment une sorte de survol de l'ensemble d'une vie d'Église sur 40 ans. Je trouve ça assez fascinant. Qu'est-ce que Jésus peut dire à une Église 40 ans après son commencement ? Eh bien, c'est ce que nous allons lire. C'est ce que nous allons lire ensemble en Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Et je vous suggère que l'une des choses qui est le vrai défi d'une vie d'Église durable, c'est de maintenir l'amour au centre. Maintenir l'amour au centre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 2, donc c'est le dernier livre de la Bible, pour ceux qui sont un peu perdus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Waouh ! C'est une lettre. Les lettres de l'Apocalypse sont extraordinaires. Je trouve que quand on réfléchit à une stratégie d'église ou quand on réfléchit à un diagnostic sur la vie de l'église, ça peut être un bon moyen de commencer. Parce qu'on se rend compte que ce que Jésus aime n'est pas nécessairement ce que les gens aiment. Quand on pose la question « quelles sont les marques d'une bonne église ?», c'est au moins une église qui a une louange aussi qualitative que celle que vous avez. C'est toujours partie des points importants. C'est un ministère où il y a beaucoup d'enfants et on prend bien soin des enfants. C'est un ministère où on s'occupe des jeunes. Tout ceci, ce sont des critères que l'on aime dans une église, mais on a rarement les préoccupations que nous trouvons dans ce que Jésus dit aux 7 églises de l'Apocalypse. Alors certains ont pensé que les 7 églises de l'Apocalypse étaient une sorte d'annonce un peu du développement historique des églises, c'est-à-dire que la première église représenterait l'église primitive, et puis la dernière église, celle de Laodicée, représenterait l'église de la fin des temps. Je ne crois absolument pas à cette manière de voir les choses, ce n'est pas vraiment notre thème, donc on va le laisser tomber, peut-être dans le temps de questions-réponses, je peux en dire plus si ça vous intéresse. En fait, chacune de ces villes que nous trouvons sont simplement les villes que l'on trouve sur la route d'un postier. À l'époque, la poste n'existait pas. Les postiers faisaient leur travail de façon privée. On embauchait quelqu'un pour accomplir un travail de livraison. Et celui qui a livré un peu ce livre de l'Apocalypse à ces 7 églises aurait emprunté la route de l'époque, il aurait commencé avec Éphèse, et puis il aurait terminé avec Laodicée. Donc c'est simplement 7 églises qui existaient du temps de Jésus, du temps de la fin du 1er siècle, après la mort et la résurrection de Christ. 40 ans plus tard, on pense que l'on est autour des 95, 96 après Jésus-Christ. Et Jésus écrit à ces 7 églises qui sont en place, et ça correspond un peu au plan annoncé du livre de l'Apocalypse. En Apocalypse chapitre 1, verset 19, nous lisons « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Ce que tu as vu, c'est Christ dans sa gloire, Apocalypse chapitre 1. Extraordinaire, resplendissant, majestueux, bouleversant. Ce qui est, à mon sens, ce sont les 7 églises. Voilà, il y a 7 églises qui existent, qui vivent tant qu'elles peuvent. Elles ont des forces et des faiblesses. Et Jésus va leur parler. Et puis ce qui va se produire ensuite, selon votre compréhension de l'Apocalypse, ma compréhension, et je crois qu'elle est proche de celle que vous avez ici, c'est que Apocalypse 4, jusqu'à la fin, c'est plus futuriste, c'est plus ce qui se passera un jour, sachant que c'est très difficile à comprendre, il y a beaucoup de symboles et on n'est pas toujours d'accord sur l'interprétation de ces symboles. Mais bref, Jésus écrit à cette église d'Éphèse. Une église donc où on a appris plein de choses maintenant. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on a eu quelques regards sur le développement de cette vie d'église et Jésus a des choses à lui dire à cette église. Et vous savez quoi ? Un bon CV ne suffit pas. L'église ne saurait être un musée. L'église, ce n'est pas l'endroit où on se dit, tu te souviens, il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui est venu à Christ. L'église, ce n'est pas un lieu où on se dit, il y a 30 ans, cette expérience m'a bouleversé. Parce que ça veut dire à ce moment-là qu'elle vit sur son acquis et qu'elle ne vit pas sur son avenir. Et comme c'est difficile de maintenir la passion pour la personne de Christ et son œuvre, Jésus ici se présente et il parle à l'Église au verset 1. Dans sa présentation, nous voyons qu'il rassemble l'Église autour de sa personne. « Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. » Formulation est un peu étrange, hein ? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est quoi l'ange de l'église d'Éphèse ? C'est quoi l'ange de l'église évangélique internationale de Genève ? C'est compliqué en fait. Les interprètes se divisent sur la question. Il y en a qui pensent que c'est un ange littéral. C'est-à-dire qu'il y aurait un ange céleste que Dieu aurait assigné à l'église d'Éphèse comme il y aurait un ange au-dessus de l'église évangélique de Genève et que cet ange-là serait chargé de recevoir les instructions de Dieu et de les communiquer. Ça fait un peu space quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Parce que c'est difficile d'imaginer comment la communication pourrait avoir lieu et si jamais les anciens vous disent qu'ils sont en communication directe avec un ange, je vous propose d'en parler avec d'autres. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il faudrait discuter avec eux, n'est-ce pas ? D'autres considèrent que ange, voulant dire messager, il s'agit là soit du pasteur de l'Église, soit des messagers. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, on a plein de manières possibles de structurer une vie d'Église, mais on a quelques constantes. Et dans ces constantes, c'est toujours une collégialité de responsables. Il ne peut pas y avoir un responsable dictateur, n'est-ce pas ? Mais il y a une collégialité de responsables, même si au sein de ces responsables pluriels, il y a des dons particuliers, nous l'avons vu hier après-midi. Vraisemblablement, c'est la meilleure piste. Lorsque Jésus écrit ou demande à Jean d'écrire, c'est adressé aux responsables collégialement qui sont chargés d'entendre de Dieu les instructions à mettre en place pour l'Église. C'est pourquoi vous devez prier pour les anciens. Parce qu'ils ont une sacrée responsabilité. C'est pourquoi vous devez aussi relâcher les anciens à leur responsabilité. Ça m'a toujours surpris que pendant des mois, les anciens réfléchissent à une décision, prennent la décision, et dans l'église, des gens spontanément disent « Oh, c'est nul !» Dire « Waouh !» C'est surprenant, non ? Il y a des gens qui n'ont pas pris le temps, qui n'ont pas tous les faits, mais qui ont un avis sur tout. Mais pourtant, dans la perspective de Dieu, les anciens sont chargés de faire au mieux en entendant ce qu'ils entendent de l'Écriture, en entendant de ce qu'ils entendent de leur cœur, en priant pour cela et pour conduire l'Église ensemble. Bref, le Seigneur leur parle et leur dit, voilà, écris à l'ange de l'Église d'Éphèse, j'ai deux, trois choses à dire. Et dans chacune de ces lettres, Jésus se présente en empruntant à la révélation de Apocalypse chapitre 1, et de façon pertinente par rapport à l'Église. La notion de pertinence est constante. S'il y a un livre à lire, peut-être ce serait une Église centrée sur l'Évangile de Timothée Keller. Remarquable, c'est un gros livre pour ceux qui sont leaders ou aspirent au leadership dans l'Église. Notion très intéressante. Bref, la manière dont il se présente à l'Église, vous avez remarqué, je suis celui qui tient quoi ? Je sais, il fait chaud ce matin, c'est la dernière session, c'est difficile. Je suis celui qui tient les sept. Oui, il marche au milieu des chandeliers, mais il tient à quoi ? Les étoiles. C'est quoi les étoiles ? Eh bien, la réponse nous est donnée juste auparavant, verset 20. Vous allez voir, c'est très clair. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans la main droite et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges et des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. C'est plus clair, non ? Ah non ? Bon. Quand Jésus se présente à l'Église, il dit « c'est moi qui tiens les étoiles ». Et les étoiles, c'est qui ? C'est les messagers. Et les messagers, c'est qui? C'est les responsables. Vous savez quoi? Jésus, il dit, hé, les amis, moi, je tiens les responsables dans ma main droite et je les tiens fermement. Ça doit être un encouragement pour les responsables. Mais il est aussi en train peut-être de critiquer un brin l'Église qui se disait, nous avons Paul comme fondateur, Timothée comme pasteur, Jean comme retraité. Je veux dire ça. Il y a peu d'églises qui peuvent se vanter d'une telle présence, n'est-ce pas? Et ce que l'on en tire, bien sûr, c'est qu'au centre de l'Église, c'est qui? C'est la bonne réponse. Dans les écoles du dimanche, quelqu'un pose la question, la bonne réponse, c'est toujours Jésus. Mais de façon très fondamentale, au centre de l'Église, c'est vraiment Jésus. Et quand il se présente à l'Église, il dit « c'est moi qui tiens les sept étoiles, les sept leaders ». Les leaders sont juste des instruments. Il ne faut pas idolâtrer les leaders, je sais que vous ne le faites pas. Mais il ne faut pas non plus imaginer que les leaders sont ces gens qui doivent être au centre. Ils sont juste des serviteurs. Au centre de l'Église, c'est Jésus-Christ. Une autre manière de laquelle il se présente, c'est « je suis celui qui marche au milieu des sept chandeliers ». Et la Bible nous dit « les sept chandeliers sont les sept églises ». Est-ce que vous vous êtes déjà considéré, c'est une métaphore mineure sur l'Église, mais c'est une métaphore intéressante, c'est que l'Église est un chandelier. Quelle est la fonction principale d'un chandelier? Merci. C'est très profond comme remarque. Et donc l'Église a vraiment pour objectif de briller. Et si on m'avait chargé de fabriquer un chandelier, j'aurais mis une barre horizontale, sept barres verticales et basta, ça fonctionne, hein. Mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a des fleurs, il y a des... c'est mignon tout plein, le chandelier. Et je me dis, ça, c'est une belle image de l'Église. Elle porte la lumière, et c'est vrai que certains sont les mèches, les évangélistes, ceux qui ont vraiment à cœur le travail de communication de l'Évangile. D'autres sont juste des fleurs. Ils sont là pour faire beau. Et l'Église est belle ensemble. Elle est un chandelier qui éclaire. Et quand Jésus se présente à l'Église, il dit, tu sais, je marche au milieu de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas les choses en lisant le bulletin. Il n'apprend pas en lisant quoi que ce soit sur l'Église. Il connaît précisément chacune de nos vies, chacune de nos détresses, chacune de nos chutes, chacune des grâces dont on a besoin. Il marche au milieu de l'Église et c'est pourquoi quand il dit au verset 2, je connais tes œuvres, il utilise un verbe qui n'est pas « j'apprends à connaître », mais « je vois tes œuvres ». Je vois exactement ce qui se passe dans la vie de cette Église. Et dans la manière dont il en parle, on voit à quel point l'Église était pleine de zèle. « Je connais tes œuvres ». Ton travail, ta persévérance, je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Waouh, ce serait formidable si l'Église pouvait dire cela, enfin Jésus pouvait dire cela de votre Église. Hein. Donc Jésus commence par approuver plusieurs choses du passé de cette Église. Et moi je tire un vrai encouragement de cela, non? Quand vous sacrifiez des heures pour préparer un message, pour être à une école, un groupe de maison, pour enseigner les enfants, pour préparer un travail. Dieu le voit, Dieu le connaît, Dieu l'approuve. Soudainement, ça donne un peu de texture à votre engagement dans l'Église, non? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de devenir serviteur d'une Église. C'est une organisation, c'est pénible. Il faut mettre des chaises, il faut enlever les chaises, il faut mettre la sono, il faut enlever la sono. C'est pénible. Mais quand on le fait pour Christ, c'est léger. Et chaque fois que vous prenez du temps pour encourager quelqu'un, chaque fois que vous prenez du temps pour servir au sein de cette Église, Christ le voit et dit « je connais ça, je vois ça ». C'est chouette, non? Enfin, moi, je trouve. Et il voit que l'Église avait été à la source de plusieurs églises. Epaphras s'est converti à Éphèse, puis avait fondé l'Église de Colosse. L'Église de Laodicée semble également être née de la vie de l'Église. Et l'Église n'avait pas chômé dans son activité, mais elle avait œuvré jusqu'à la pénibilité. C'est vraiment le sens du mot. Les chrétiens d'Éphèse avaient sué pour l'œuvre de Dieu. Ils ne donnaient pas les miettes à l'Église, ils donnaient vraiment Ils travaillaient au travail de l'Église et ils en avaient accepté le prix. Ils avaient persévéré, cela dénote une attitude de quelqu'un qui est assiégé par une armée et qui tient tête. Peut-être vous vous souvenez, dans les débuts de la vie de l'Église, les émeutes qui sont nées du progrès de l'Évangile à Éphèse, ils étaient restés fermes. Vous vous souvenez que les gens avaient brûlé même ce qui était leur ancien appui, leur ancien salut, alors qu'ils trouvaient en Christ tout ce dont ils avaient besoin, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il fallait du courage pour rendre public cet engagement pour Christ. Chapeau, hein, franchement. Ils avaient affiché leur foi face aux marchands d'idoles. Ils avaient été clairs dans leur attachement avec Christ. Et Jésus approuve même leur discernement. C'est l'une des grandes qualités dont doit faire preuve une église, c'est le discernement spirituel. Je ne sais pas pourquoi, mais le religieux, et y compris le religieux chrétien, est vraiment source d'intérêt de gens un peu qui font du trafic, hein, de ça. Les sectes empruntent à la personne de Jésus, s'infiltrent dans les églises très souvent pour apporter un message qui va à l'encontre de l'évangile. Et l'apôtre Paul avait même dit, juste en partant de l'église d'Éphèse, il avait rassemblé en acte 20 les anciens et il leur dit aux anciens, je sais que parmi vous, vous vous souvenez de la suite ? Ça me bouleverse. Il dit en acte 20, 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a été établi évêque. Verset 29, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Parmi vous les anciens. Et l'église d'Éphèse avait su discerner ce qui était vrai de ce qui était faux. Des années plus tard, Ignace, d'Antioche félicite l'église d'Éphèse et il dit « J'ai appris que certains venant de là-bas sont passés chez vous à Éphèse, porteurs d'une mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas lassés et vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous bouchant les oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment dans la pensée. » On retrouve de telles mises en garde. Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes » en Matthieu 7. Et Jean dit, alors qu'il écrit d'Éphèse, en 2 Jean 1, 7, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. » Comment les reconnaître ? Première chose, c'est l'appât du gain. Lorsque les gens viennent pour essayer d'obtenir des chrétiens de l'argent pour un service spirituel, vous savez que vous n'êtes plus dans le christianisme biblique. Vous allez me dire, ça n'existe pas. Si, ça existe. Au Brésil, on m'a raconté que si vous voulez qu'un pasteur prie pour vous, il n'y a pas de problème. Il faut juste venir avec une enveloppe. Et selon le degré d'engagement financier de votre enveloppe, vous aurez une prière personnalisée ou générale. Oui, c'est authentique. C'est authentique. J'ai un frère qui s'est converti, qui travaille en tant qu'évangéliste au Brésil. Il est chanteur évangéliste et a un gars vraiment un témoignage extraordinaire. Il a perdu un bras. Enfin bref, extraordinaire comme témoignage. Il va dans ces grandes églises, églises de prospérité, églises vraiment hérétiques. Il prêche l'évangile de la grâce. Les gens n'en ont jamais entendu parler. Parce que c'est maintenant un faux évangile qui a été très bien accepté dans ce pays. Je me souviens d'un conférencier qu'une église voulait inviter, j'en ai lu le témoignage, et il a demandé des honoraires à 5 chiffres, 10 000 dollars pour l'essence qu'on mettrait dans son jet, un manicure et un coiffeur, d'ailleurs, John, j'ai remarqué, il n'y en avait pas aujourd'hui. Il était malade, d'accord, ça ira alors. Une suite dans un hôtel 5 étoiles, une voiture européenne de moins de 10 ans, et puis du Perrier à température ambiante. Alors j'ai donné cette liste un jour dans un congrès où je prêchais. Le lendemain, avant de prêcher, on m'a amené un Perrier à température ambiante. Mais je dois dire que sur la liste, la seule chose qu'ils aient trouvé à donner, c'était le Perrier. Je l'ai trouvé un peu léger. Hein. Le culte de la personnalité est un autre critère. Les gens qui se mettent en avant pour pouvoir être mis en avant. Ou des gens qui divisent l'Église contre les responsables. Et ça commence toujours comme Absalom. Ne va pas voir les anciens. Ils sont trop occupés, ils ne s'intéressent pas à ton histoire. Viens me parler, moi je t'écouterai. Et si moi j'étais ancien, je te représenterais bien. J'ai vu ça dans notre église. J'ai vu ça dans plein d'églises. Jésus reconnaît que les gens ont travaillé et qu'ils ne peuvent pas supporter les méchants, qu'ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, qui enseignent des fausses doctrines. J'ai écrit ce message avant que vous passiez par ce que vous avez vécu. Mais Jésus reproche à cette église exemplaire une chose. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes œuvres premières. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. C'est tout à fait possible pour une église de mourir. Elle ne va pas mourir dans sa structure, elle va simplement jouer à l'église. C'est tout à fait possible qu'une église continue ses réunions, ses activités, ses prières, ses chants, ses prédications, mais Dieu a enlevé le chandelier. C'est-à-dire, Dieu a enlevé cette capacité de briller, d'influencer. Et c'est marrant parce que dans la liste des péchés que l'on reproche les uns aux autres, assez facilement, on va reprocher la colère, l'immoralité, et ça doit être reproché. Enfin, c'est le péché est le péché, hein, hélas. Mais rarement, on va se préoccuper du premier amour, n'est-ce pas ? J'ai jamais entendu d'un processus de discipline d'église qui commence par « tu as oublié ton premier amour, repens-toi sinon Matthieu 18 ». Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ce serait peut-être un peu dur. Hein. Puis c'est Jésus qui connaît les cœurs, il peut le faire, nous on ne peut pas le faire. Qui peut dire où il en est dans son amour pour Christ, hein ? Notre vie avec Christ, elle est cachée. Réellement, fondamentalement, on ne sait. Vous savez pas comment j'en suis, où j'en suis moi. Je ne sais pas où vous en êtes vous. C'est quelque chose de très. Enfin, c'est difficile à mesurer, n'est-ce pas? Donc, on va laisser le Saint-Esprit juste nous parler de cette histoire, parce que je sais que c'est facile de culpabiliser, alors que c'est pas du tout l'objectif. Hein. Alors, quand on se penche sur ce verset, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Les gens se disent, c'est de quel amour ici? Est-ce que c'est l'amour les uns pour les autres? Le contexte ne s'y prête pas forcément, c'est possible. Est-ce que c'est l'amour de la doctrine ? Par le contexte, c'est parlant. C'est possible que l'Église soit devenue un petit peu plus... On va laisser ces questions doctrinales de côté qui nous divisent. L'essentiel, c'est de s'aimer. Vous connaissez des églises qui fonctionnent comme ça ? Ah, c'est pas grave ce que vous croyez. Dès l'instant qu'on s'aime, c'est possible. Est-ce que c'est l'amour de l'éclairage ? Vous vous souvenez de la métaphore du chandelier ? Dire que l'église était tout feu, tout flamme, avait commencé des églises partout autour, mais maintenant, on va s'occuper du ménage de l'église, c'est plus important. Est-ce que c'est ça ? Vous savez comment est née notre mission, enfin la mission dont je fais partie ? Nous, notre union d'église a plus de 300 ans. Elle est née en Allemagne en 1708, et c'était plutôt des gens, de style Amish. Et ça nous a poursuivi pendant 3 siècles, hein, cette mentalité un petit peu centrée sur elle-même. Dans les années 1900, enfin en 1900, l'Union d'Église s'est rassemblée pour son congrès aux États-Unis. Et puis pour son congrès, il y avait des choses très importantes à discuter. Et il y avait un petit groupe qui voulait commencer une œuvre missionnaire. Mais les discussions s'éternisaient. Et puis le gars qui voulait vraiment et qui avait obtenu la promesse qu'on parle de la mission, il avait vraiment obtenu qu'on en parlerait, mais le temps, on arrivait sur la fin de la conférence et aucune possibilité d'en discuter, excédé, le président a dit, écoutez, hein, on a d'autres choses à décider que commencer un travail missionnaire. Ceux qui veulent commencer une mission, retrouvez-vous dehors. Et il y a une trentaine de personnes sur les 2000 délégués qui sont sortis et qui sont allés prier sous un arbre parce qu'il faisait chaud, et ils sont priés pour les nations. Aujourd'hui, ça touche 34 pays dans le monde. Et on a fait des recherches récemment pour savoir de quoi parlaient les 2000 autres ou les 1970 autres délégués qui étaient restés. Du nombre de copies d'un livret de chant qu'il fallait imprimer pour l'Union d'Église et des coloris. Et ça a duré des heures. Moi, je veux rouge, moi, je veux noir, moi, je veux 25 pages, moi, je veux 500 pages, moi, je veux... On peut vite perdre l'amour de l'éclairage. Mais peut-être que c'est aussi l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Et moi, je pense que c'est probablement ce qui est central, mais que peut-être c'est un package. Parce que l'amour de Christ nous conduit à aimer son prochain. L'amour de Christ nous conduit à aimer la vérité. L'amour de Christ nous conduit à aimer les perdus. Comment peut-on ne pas être en souci, même si on n'est pas évangéliste, que Christ soit magnifié, glorifié, que le fruit de son sacrifice soit partagé par le plus grand nombre, que des lèvres des peuples s'élèvent des louanges dont il est digne. On ne peut pas être indifférent à cette situation. Mais vraisemblablement qu'au centre, il y a cet amour du Christ. Ça me fait penser aux paroles des prophètes. Hein. Jérémie dit « Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert. » Waouh ! Ceux qui sont mariés, tu te souviens ? Je ne veux pas donner la suite parce que ça pourrait donner de mauvaises images. Où en est notre amour pour Jésus-Christ ? Je me souviens un jour, j'étais plutôt découragé, vraiment découragé en fait. Et puis je me baladais, enfin, j'étais dans un lieu, une conférence, je ne sais plus quoi. Et puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah viens Florent, tu veux bien nous je te présente mon petit groupe, j'aimerais bien que tu racontes ton témoignage. » Je me suis dit « Oh non, il y a des moments comme ça pour... » Il y a peut-être que moi qui passe par des moments comme ça. Mais franchement, je n'avais pas du tout envie d'en parler parce que j'étais un peu dans ce sentiment d'être en mensonge par rapport à ça. Puis en racontant mon témoignage, j'ai été renouvelé. Je me suis dit « Wow, Dieu a fait quand même dans ma vie de pécheur impie une œuvre de grâce. » Et ça a renouvelé mon amour pour Christ. Et c'est exactement ce que Jésus demande à cette église. Il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu te souviens ? Tu te souviens où tu en étais avant Christ ? Tu te souviens ce qui se passait ? » Alors, il y en a peut-être dans cette salle qui se dit « Ouais, mais moi je suis né dans une famille chrétienne. » Tu as un plus grand miracle. Si tu es né dans une famille chrétienne et tu aimes Jésus, tu as un plus grand miracle que les gens qui n'avaient jamais connu Christ et qui viennent à Christ comme ça spontanément. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu as grandi chez des parents imparfaits, désolé les parents, tu as fréquenté une église imparfaite, désolé l'église, et tu aimes Jésus, ça c'est un plus grand miracle. Franchement, ça c'est un plus grand miracle. Et ça démontre que l'œuvre de grâce qui est dans ta vie, elle est chouette. Et Christ t'a attiré. Je me souviens, ça c'est une histoire ancienne, hein, c'est vraiment une histoire ancienne, mais je me souviens quand je me suis converti, donc j'étais avec ce groupe d'Irlandais qui étaient venus en France pour témoigner, et je les conduisais dans une visite à Lyon. Donc je me suis converti le 12 juillet 84, le 13 et le 14, je faisais visiter la ville de Lyon en voiture, et ils étaient tous dans la voiture là, et moi je venais de découvrir la foi, je venais de découvrir les chants, et puis eux ils parlaient de sport, de films, enfin de la vie courante quoi. Et moi j'étais au volant et je les ai dit « Est-ce qu'on peut chanter ?» Alors, vous savez, le problème c'est que quand vous avez un jeune converti qui vous demande de chanter, vous n'allez pas lui dire « Non, ça ne m'intéresse pas. » Je veux dire, ça ne fait pas un bon témoignage. Donc, ils étaient là « Oui, on va chanter. »« Ah, chante, alléluia, oh Seigneur. » Et moi, j'étais là « C'est trop bien. C'est trop bien. On peut en chanter un autre. » Mais il est malade, lui. Quelques années plus tard, j'étais pasteur. Et nous avions une retraite de tous les responsables élargis de l'Église pour discuter de l'avenir stratégique de l'Église. Et il y avait un jeune converti handicapé qui on avait mis sa chaise roulante dans le coffre, il était à l'arrière là, et puis on discutait de choses importantes du ministère. Quand j'entends une petite voix qui dit « On chante ?» Et vous savez, ce qui m'a percé le cœur, c'est que je n'avais pas envie. On avait des choses plus importantes à faire. Je me suis dit « Waouh !» Mon amour, et je veux pas réduire l'amour du Christ à un chant, c'est ridicule. C'est juste un élément dans l'ensemble, n'est-ce pas ? On peut ne pas avoir envie de chanter et aimer passionnément Christ, hein, d'accord ? Désolé. C'est bon. On peut aussi avoir envie de chanter quand on aime beaucoup Jésus. Hein. Okay, ouais. D'ailleurs, dans la Bible, l'amour se manifeste par l'obéissance. Fondamentalement, parce que l'on aime Christ, on lui fait confiance au point d'obéir. Ça ne veut pas dire que notre obéissance est parfaite. Elle ne l'est pas. Enfin, elle ne l'est pas dans ma vie. Combien de fois j'ai dû revenir à la croix ? Tous les jours. L'amour se manifeste aussi par la proximité à la parole de Dieu. Il y a cette fréquentation de Jésus par l'Écriture. Je médite Dieu pour que le comprendre mieux ce qu'il attend de moi. L'Église a une quarantaine d'années. Et Jésus dit à l'Église, souviens-toi d'où tu viens. Collectivement, collégialement, souviens-toi les premières victoires, les premiers combats, la passion, les difficultés, la persévérance. On y a cru et on l'a fait, ou il l'a fait. Souviens-toi de ça. que ça motive un rebond. Repentir, c'est vraiment changer profondément dans son cœur. C'est vraiment un changement radical qui a lieu à l'intérieur. Seigneur, je reconnais que mon cœur s'est refroidi. Seigneur, je reconnais que c'est plus la routine. Seigneur, je veux faire demi-tour et je veux quoi ? Ben, je veux me réengager dans les œuvres qui témoignent de ton amour. On doit être saisi régulièrement. Moi, j'ai besoin d'être saisi régulièrement pour cela. Ce que j'ai trouvé d'utile, alors je cite juste ce que Godet, un théologien des temps passés, dit, que si l'Église ne se repent pas de cette mollesse spirituelle, je ferai, et je cite Godet, je ferai que tu cesses d'être une Église, soit en te supprimant complètement, soit en te frappant de mort spirituelle. La lumière, une fois éteinte, ce qui arrive toujours lorsque l'amour a disparu et que Dieu retire ses grâces, il ne reste plus d'Église alors même que des formes mortes subsistent encore. 150 ans après, il n'y avait plus d'église à Éphèse, historiquement. Votre église est belle. Et j'espère que dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura cette passion renouvelée. Moi, ce que j'ai trouvé utile, parce que mon amour pour Christ, je le confesse, hein, j'ai encore tellement de choses à vivre et à apprendre, mon amour pour Christ est très fluctuant, vraiment. Mais ce que j'ai trouvé utile, c'est de prendre des RTT et de m'isoler dans un parc et de prendre une lettre du Nouveau Testament ou quelques psaumes ou prendre un livre de piété, un peu Schock, Francis Chan, Piper, enfin des auteurs un peu qui laissent personne debout. Et puis j'essaie de rebondir de ce que je découvre dans un face-à-face avec Dieu. Je me repens beaucoup. Je saisis certaines de ses promesses. Et puis je commence à prier pour, au-delà de mon petit cœur qui est centré sur moi-même parce que je suis vraiment égoïste, et j'essaie de me replonger dans le témoignage près de mes amis, près de nos voisins, près de ma famille, de prier, de sortir de moi-même pour essayer de renouveler une disposition d'esprit qui est tournée vers les autres, qui est tournée vers l'Église. Maintenant que je suis dans une mission, j'ai le privilège d'avoir un DRH. Et l'une des questions régulières qu'il me pose, c'est « Florent, est-ce que tu prends une journée avec Dieu tous les mois ?» C'est une requête professionnelle. C'est génial. J'ai honte à le dire, mais je ne les prends pas tous les mois. Je suis trop occupé, j'ai trop de choses, n'est-ce pas ? Problématique, non ? C'est problématique. Parfois, j'écoute régulièrement d'ailleurs des messages en MP3 d'auteurs que j'apprécie pour essayer d'être exhorté, renouvelé. J'essaie de garder un cadre dans ma tête qui me fait voir Christ au centre. Jésus exhorte faire ce demi-tour tout en reconnaissant que voilà, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Remarquez bien que Jésus a de la haine non pour des personnes, mais pour les œuvres de personnes. La distinction est importante. Hein. On doit aimer même nos adversaires spirituels, mais on doit ne pas apprécier leurs œuvres lorsque Christ est à l'encontre de ça. On ne sait pas trop qui sont les Nicolaïtes. Certains pensent que ce sont des hyper-libertins, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus aucune loi sur... Ils considéraient que maintenant qu'on était sous la grâce, on pouvait faire ce qu'on voulait parce que, on est sous la grâce. Peut-être c'était des gens comme ça. D'autres imaginent que ce sont plutôt des hyper-dirigeants à cause de... Les Nicolaïtes, ils empruntent au verbe nikao, dominer, être victorieux. Et peut-être qu'il y avait ces gens qui étaient des sortes de gourous dictateurs. C'est la perspective de MacArthur qui cite Irénée. Et il dit « Le Nicolas nommé diacre en acte 6 était un faux croyant qui aurait sombré plus tard dans l'apostasie et égaré des membres de l'Église grâce au crédit dont il jouissait. Tout comme Balaam, il aurait poussé les croyants à l'immoralité et à la méchanceté. Les Nicolaïtes se livraient à l'immoralité et faisaient assaut de tentations sensuelles contre l'Église. Clément d'Alexandrie écrivit qu'ils s'adonnaient au plaisir comme des chèvres et ne se refusaient rien par leur enseignement erroné. Ils pervertissaient le sens de la grâce et remplaçaient la liberté par la licence. » Bien-aimés, le seul rempart de l'orthodoxie, c'est l'Église. Ce ne sont pas les responsables de l'Église. Les responsables de l'Église sont ceux qui vont alerter, mais c'est l'Église qui doit être vigilante sur sa doctrine. Jésus promet, on arrive sur la fin du message, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que, ayant parlé à l'Église, Jésus termine avec une exhortation qui est individuelle. il est tentant, en écoutant un tel message, de donner un coup de coude. « Hé, c'est pour toi ça, non ?»« Ah, c'est bien qu'elle entende ce message. Ça va lui faire... » Mais Jésus, il ne termine pas comme ça. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit... On est dans un face-à-face personnel et individuel dans notre relation à Dieu. Et c'est à chacun de répondre de façon singulière et personnelle à ce que le Saint-Esprit peut vouloir dire à l'Église. Et chaque lettre se termine par une promesse qui nous plonge dans l'espérance éternelle. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça nous renvoie à l'échec du premier jardin. Ça nous renvoie à l'assurance d'un jardin débarrassé de toute souffrance. Vous savez qu'en Apocalypse chapitre 21, nous voyons ce nouveau monde qui vient après l'ultime jugement qui plonge les hommes et les femmes ayant rejeté Dieu dans une éternité séparée de lui. Nous voyons enfin ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Et la Bible nous dit qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux. Et nous serons dans un monde nouveau dont on a à peine la capacité d'imaginer les contours, mais qui sera bon et qui sera bien. Certaines personnes ont été inquiètes de la notion « au vainqueur ». Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir dans l'Église des perdants ? Je ne crois pas. Je crois que le vainqueur, c'est celui qui démontre l'authenticité de sa foi par sa persévérance. Le vainqueur, ce n'est pas le parfait. C'est celui qui se relève de ses chutes, c'est celui qui reste attaché au Seigneur, c'est celui qui demeure centré malgré tout à aimer Christ. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas ? Jésus lui dit qu'il renierait trois fois le Seigneur. Et quand on lit avec attention son reniement, on est frappé que c'est chaque fois une descente plus grave. La première fois, il dit « Jésus, non, je le connais pas. Tu appelles ça comment ?»« Jésus, non, je ne connais pas. » Juste tout simple. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » La deuxième fois, quand il renie Christ, il dit « Non, je jure solennellement la vie de ma mère. Non, je connais pas Jésus. » Mais la troisième fois, c'est sous anathème. « J'affirme la vérité ou sinon que mon âme aille en enfer. » C'est ça qu'il dit. Je ne connais pas Jésus. Comment on se relève de ça ? C'est terrible, hein ? Puis ensuite, il croise le regard de Christ et il pleure amèrement. Et quelques jours plus tard, Jésus vient retrouver Pierre. Il est ressuscité. Pierre est parti à la pêche contre les instructions de Jésus, d'ailleurs. Et Jésus vient auprès de lui et lui dit, « Mon Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et on ne sait pas ce qu'est le plus que ceci. Peut-être Jésus prend Pierre et dit « Est-ce que vraiment tu crois que tu m'aimes plus que les autres apôtres ? Vraiment ? C'est possible ?» Ou bien, comme il y a un petit déjeuner qui a été préparé avec des poissons sur le grill, il est possible, certains pensent que c'est cela dont il est question, « Est-ce que tu m'aimes plus que les poissons ? Toi qui es revenu à ta pêche là, tu m'aimes plus que les poissons ?» Et Pierre doit reconnaître, finalement, il n'y a qu'une chose qui va compter, n'est-ce pas ? Tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Ne retrouvons-nous pas ici le thème central de cette lettre que Jésus adresse à l'Église ? C'est-à-dire que quelle que soit notre situation maintenant, avec les découragements, les chutes, le manque d'engagement ou le surplus d'engagement, le burn-out ou je ne sais quoi, la question vraiment centrale, est-ce que tu aimes Jésus ? Est-ce que tu aimes Jésus ? Et si tu l'aimes, est-ce que tu as besoin de venir à la croix ? Comme Pierre en a eu besoin, comme les Éphésiens en ont eu besoin. Et si tu l'aimes, est-ce que tu as besoin de reprendre un chemin d'engagement ? Que ce soit pas simplement un amour statique. Le temps vient où on va vivre l'abondance du paradis. Maintenant, c'est le temps du combat. Et le combat n'est pas facile, mais il se centre sur une chose qui garantit la durabilité d'une Église. C'est que nos cœurs, individuellement et collectivement, soient centrés sur la personne de Christ pour l'aimer et le servir. Je vous propose un petit temps de silence. pour que chacun fasse écho dans son cœur à ce qui a été dit. Et puis je prierai. Dieu et Père, tu entends les prières qui montent à toi. Tu marches au milieu de cette église. Tu vois ce qui se passe. Tu nous connais. Père, je voudrais encore et encore me repentir d'un manque d'amour prononcé, d'une vie qui est souvent centrée sur moi-même plutôt que centrée sur Christ. Je veux te dire, Seigneur, pardon, tu connais ce qui se passe, les combats personnels, les chutes parfois. Une chose que je sais et que je voudrais développer, je crois, c'est la prière de tous ici, c'est que je t'aime et je voudrais que cet amour croisse en vérité et en sensibilité. Et je prie que tu nous saisisses tous, Seigneur, de cet amour renouvelé. Père, tu sais là où tu as besoin de mettre le doigt dans nos vies, nos cœurs, que tu viennes nous soutenir là où on en a besoin, que tu viennes nous relever là où on en a besoin, que tu viennes nous encourager là où on en a besoin, que tu nous fortifies là où l'engagement est déjà très vif et fort. Mais que par-dessus tout, ce soit motivé, entouré par l'amour pour ton nom. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Nous sommes dépendants de ta bienveillance et de ton œuvre en nous. Seigneur, cette promesse du vainqueur nous fait languir pour ce temps où nous serons avec toi pour l'éternité. Prions que ton règne vienne et nous te remercions de ce que tu nous as accueillis pleinement en Jésus-Christ pour que nous puissions anticiper avec bonheur ce temps éternel avec toi. Père, de tout ce qui a été dit ce week-end, je prie que tu gardes dans nos cœurs ce qui était essentiel, que tu effaces le reste, que tu bénisses richement cette Église, ses responsables, tous ceux qui y prennent part de façon vive et active. Au nom de Christ et pour ta gloire. Amen.